Nous ne poursuivrons pas ce matin l'étude de l'évangile de Marc, que nos trois pasteurs vont bientôt, je crois, mener à son terme. Et c'est dans l'évangile de Luc que nous trouvons la parabole bien connue que nous considérerons ensemble maintenant, parabole appelée généralement la parabole du fils prodigue. Je crois que ce soir, notre frère Paul Harrison va parler aussi d'une parabole dans l'évangile de Luc, mais dans celle du juge inique. Mais ce matin, c'est celle du fils prodigue. Alors, quelques-uns parmi vous, pas très nombreux, je pense, se souviendront peut-être d'avoir déjà entendu ce message autour de cette parabole. Pour peu nombreux, car c'était presque au siècle dernier que j'avais présenté cette prédication que j'ai retrouvée récemment et que j'ai eu envie de reprendre en la modifiant légèrement et en espérant que sa forme quelque peu inhabituelle ne vous dérangera pas trop. Si vous vous souvenez d'avoir entendu déjà cette réflexion, c'est d'une part que vous êtes un membre de l'Église depuis pas mal d'années, et deuxièmement que vous avez une très bonne mémoire, ce qui est a priori réjouissant. Alors de manière très inhabituelle, nous lirons le texte de cette parabole de Jésus en conclusion de notre méditation de ce matin, mais je ne doute pas que la plupart de vous, vous ayez déjà entendu nombre de prédications à propos de cette parabole. Acte 1, scène 1, la liberté enfin. Sur une route, il fait chaud déjà, le soleil se lève tout juste pourtant. Un jeune homme marche d'un pas vif, un sac léger sur les épaules. Enfin, enfin libre, j'ai attendu ce moment depuis si longtemps. Je n'y croyais même plus, mais j'ai fini par gagner, par obtenir ce que je désirais si ardemment. Enfin, je vais pouvoir vivre, faire ce que je veux, ne plus me tuer dans des études assommantes ou au travail, dans un travail qui me déplaît. Je laisse cela à mon frère, ce grand nigaud qui trime comme un malade dans les champs du père toute la journée. Le père, j'ai quand même gagné face à lui. Le plus dur, cela a été de réclamer ma part d'héritage. Mais quoi, est-ce que cela ne devait pas me revenir un jour? Alors, autant tout de suite, quand je peux en profiter, m'amuser, voyager, voir du monde, voir le monde. Je savais bien que j'allais partir, mais ça je ne lui ai pas dit tout de suite. Mais quand j'ai eu l'argent, c'était bon, il ne pouvait plus me retenir, m'en empêcher. C'est même curieux qu'il n'ait plus rien dit. La mère a pleuré, et cela un instant a failli me retenir, mais les mères sont toutes comme ça, elles nous garderaient toujours dans leurs jupes si on les laissait faire. Mais le père, lui, n'a plus rien dit. Sinon, avec ce ton un peu ridicule de patriarche, si tu veux vraiment partir, pars, mon fils, je ne te retiens plus. Nous nous étions pourtant opposés violemment, bien souvent. Il voulait m'imposer sa volonté, m'interdire ce qui fait le plaisir de la vie. Alors c'est vrai, dans l'enfance, nous entendions bien. J'étais toujours avec lui. Mais quand j'ai voulu vivre ma vie, il n'a cessé de me mettre en garde, de me protéger, disait-il. Tu vas souffrir à cause de tes bêtises, sermonnait-il. Enfin, tout cela est fini, heureusement, j'allais dire grâce à Dieu, comme dit toujours maman. Mais je n'ai pas besoin de Dieu, je suis adulte, ni Dieu ni maître, je suis mon maître et je vais m'enfourrer jusque-là, je vais m'enfourrer jusque-là. Il continue sa route, il s'est mis à chanter des paroles qui, curieusement, des années plus tard, un certain Offenbach reprendrait dans son opérette La vie parisienne. Scène 2. Bon débarras. Un chant. Un homme, jeune encore, est en train de labourer au pas lent mais régulier du cheval attelé au soc qui ouvre la terre en grosses mottes qui retombent lourdement de chaque côté. Bon débarras, nous ne serons plus tranquilles sans ce fainéant, ce vaurien qui ne sait rien faire de ses doigts non plus que de sa tête. Il a raté ses études, il n'a jamais travaillé sérieusement sur la propriété, toujours le premier à s'arrêter. Il préférait plaisanter avec les servantes ou s'amuser à des bêtises avec ses amis. Alors pour traverser la rivière à la nage, il était toujours partant. Mais pour labourer, semer, travailler, personne. Oser demander à notre père sa part de fortune, comme s'il méritait quoi que ce soit. Quelle honte! Je suis tellement en colère contre cela, et contre mon père aussi. Quelle idée de finir par lui donner cet argent. Bien sûr qu'il allait partir une fois qu'il l'aurait, bien sûr. Sinon, pourquoi réclamer l'argent? Je ne comprends pas mon père. Mais en fait, je pense qu'il a toujours plus aimé mon frère que moi. Malgré ses reproches, ses colères, les punitions, en fait, il était le chouchou. Finalement, cela est une chance pour moi, même si nous sommes moins riches je travaillerai, d'autant plus je comblerai ce trou causé par ce fou. Qu'est-ce qu'il va faire de cet argent? Pas difficile à imaginer. Les femmes, le jeu, les bons repas, les beuveries, les amis. Le jeu, oui. Qu'il ne revienne pas ici quand il sera ruiné. Et s'il revient, ce sera comme le dernier des serviteurs. Et il travaillera plus que tous. Mais je préfère qu'on ne le revoie plus. Bon débarras. J'aimerais que mon père soit plus proche de moi, qu'il m'aime comme il aimait mon frère, comme il aime mon frère. Que faire pour cela? Travailler plus, lui montrer que moi je mérite son amour, que je suis fidèle, fiable, que je ne suis pas comme ce misérable qui nous a quittés. Si je suis plus rigoureux, plus travailleur encore, mon père ne peut manquer de voir enfin mes qualités et que je mérite aussi son amour. Scène 3. Tristesse et angoisse m'étreignent. Un jardin le soir. Quelques oiseaux chantent dans le crépuscule sur un banc, un homme âgé, immobile. Bien sûr, je le savais bien qu'il partirait. Depuis des années, il s'y préparait. J'ai tout fait pour le retenir. L'amour, l'encouragement, la fermeté, la sévérité, les mises en garde. Rien n'a fait, même pas la patience. Et quand il m'a demandé sa part de notre fortune, le pauvre, il osait à peine me regarder à ce moment. Pauvre fils, que pouvais-je faire alors sinon lui donner sa fortune? Hélas, il va découvrir que ce n'est rien, que ce n'est rien, que cela ne vaut rien. Mais il doit le découvrir par lui-même. Je ne pouvais pas lui faire comprendre cela. Et bien sûr, je savais que quand il aurait l'argent, il partirait. Bien sûr. Je sais qu'il va d'abord être heureux. Il va s'éclater, comme il dit, pourvu qu'il ne fasse rien de trop grave. Je le sais, si faible. Oh, physiquement, il est fort. Il est jeune, il est plein de vigueur, d'enthousiasme. Mais il est faible dans tous les autres domaines. Que Dieu puisse le protéger des méchants, des tordus de tout genre, mais surtout de lui-même. C'est surtout lui que je crains pour lui. Il est son pire ennemi. Mais je suis aussi inquiet pour son frère aîné. Il ne comprend pas plus que le jeune ce qui est important dans la vie, qui est l'épanouissement dans l'amour de Dieu et des siens. Il est toujours stressé, toujours sérieux, toujours à penser que nous l'aimerons seulement s'il travaille 2 fois 35 heures par semaine. Il a toujours cru que j'aimais plus son cadet. J'ai essayé de lui montrer, de lui dire mon amour. J'ai tenté de l'amener à comprendre l'essentiel. Même pour cela, il n'a pas le temps. « Père, je dois aller dans tel champ, faire telle chose avec les ouvriers. Père, laisse-moi m'asseoir à ton côté et parlons ensemble, que j'aimerais qu'il me dise cela, qu'il agisse ainsi. » Mais il ne le fait pas. J'ai 2 fils. L'un va se perdre en vivant comme un païen. Il va courir les filles et faire je ne sais quelles expériences. L'autre va courir les champs pour le travail, mais il risque autant de se perdre, de devenir un obsédé du travail, de l'argent, du devoir. Acte 2, scène 1. J'ai tout perdu. Une chambre d'hôtel sordide. Un homme est assis sur le lit. Il se tient la tête entre les mains. Oh, mes aïeux, j'ai la gueule de bois, mal à la tête, et je suis tout barbouillé. Alors quand même, c'est vrai, c'était une belle fête cette nuit. Un feu d'artifice, le bouquet final. Il n'y avait plus les amis, ils sont tous partis plus longtemps, mais des amis d'une nuit, c'est toujours possible, tant que l'on garde quelques pièces. Et c'était encore le cas hier soir. Et j'ai payé pour avoir des amis, et faire la fête, et boire, et aimer, et boire, et manger, et chanter, et danser. C'était beau, mais à la fin, c'était moche. C'était très moche. Et puis j'ai mal à la tête. Et ces années passées, depuis que j'ai quitté la maison, oui, je me suis amusé. C'est vrai que cela n'a pas tourné comme je pensais. On m'a exploité, on m'a trompé en amour et en affaires. Je me suis trompé aussi. Mais je n'ai plus rien, même pas de quoi payer cette chambre. Mais plus de quoi, même plus de quoi me payer à manger. Que vais-je faire? Voler? Je ne suis pas très habile et puis me faire prendre, je n'en ai pas envie. Mendier, je n'oserais pas et j'aurais trop honte. Il ne me reste qu'à aller trouver cet homme qui m'a proposé, en riant, de garder ses pourceaux. Il venait, le misérable, de me gagner une grosse somme au jeu. Garder des pourceaux, moi qui ai refusé de travailler dans nos champs avec nos ouvriers. Mon frère rirait bien s'il me voyait, mais je n'ai pas vraiment le choix. Et il va falloir que je quitte cet hôtel par la fenêtre. Quelle histoire! Si j'avais pu imaginer que cela finirait comme cela, c'est injuste la vie. Scène 2. Mes œuvres pour tout gagner. Dans une cuisine, un homme debout mange du pain, des fruits et boit un vin léger, c'est le matin. Encore une journée bien remplie en perspective. J'espère pouvoir trouver le temps d'aller chez notre voisin pour lui proposer d'acheter le champ qui jouxte les nôtres près de la mare au sol. Celui-là, je le guigne depuis longtemps et le père est d'accord. Il me laisse, dit-il, carte blanche. Enfin, il me semble que je gagne sa confiance, mais cela n'est pas encore certain. Que je voudrais qu'il oublie mon frère. Je voudrais qu'il le dise, qu'il n'a plus qu'un fils, que c'est moi qui mérite d'hériter de lui, que je suis son vrai fils. Il me faut surveiller nos ouvriers. Si je m'éloigne trop longtemps, qui sait s'ils ne vont pas en profiter. Mon père est trop confiant avec eux. Il faut que j'y aille. Scène 3. Attendre encore, espérer encore. Un homme d'âge mûr se tient sur une colline. Sa maison qu'il aperçoit à sa droite ne retient pas son attention. Il regarde vers la gauche, vers une route qui s'éloigne et se perd à l'horizon. Rien, rien encore. Tous les jours, je monte ici dans l'espoir de voir mon petit revenir vers nous, vers moi. Et rien, pas de nouvelles. Quand reviendra-t-il? Puisse-t-il revenir, oser revenir? J'ai si mal de son absence. J'imagine ses fautes, ses erreurs, ses douleurs. Je n'en dors plus. Je reste éveillé à m'angoisser, à prier. Mon fils, que tu me fais souffrir. Reviens, reviens. Je n'ose parler de toi à la maison. Ta mère souffre trop aussi et ton frère continue de te haïr. Que j'aimerais que cette haine tombe, qu'il comprenne que je l'aime autant que toi. Il était tout content que je lui confie cette tâche d'acheter ce champ dont nous n'avons pas besoin. Mais il est si heureux de croire que cela sera une grande addition à nos biens, s'il pouvait comprendre que mes biens sont à lui, qu'il n'a pas besoin de chercher à en gagner d'autres pour que je l'accepte. Oh mes filles, si vous pouviez revenir vers moi comme quand vous étiez petits et que vous preniez mes mains lorsque nous marchions sur cette même route où j'aimerais tant voir quelqu'un venir qui ne vient pas. Acte 3, scène 1. Un bonheur inespéré. Un homme vêtu d'une belle robe, immaculée, blanche, les cheveux encore mouillés d'un parfum odorant, se tient devant la fenêtre d'une belle maison. Il regarde la campagne environnante. Mais Seigneur, est-ce possible? Je suis rentré et je suis si heureux, si soulagé. Je n'ai jamais été si heureux de toute ma vie. Que mes joies passées me semblent vaines. C'était du plaisir, mais du plaisir frelaté. Que j'ai souffert, que j'ai été humilié. Oh, quand je gardais ces porcs dégoûtants et que je crevais de faim et que mon patron me surveillait, me rationnait ma nourriture et m'imposait les tâches les plus difficiles et les plus humiliantes, que j'ai souffert. Mais cela n'était pas le pire. Le pire, c'était de penser que j'en étais là par ma faute seule, que j'ai eu honte alors. Jusque-là, je ne le voyais pas. Il me semblait naturel de faire ce que je faisais. Même lorsque j'ai perdu mon argent et les filles et mes amis, je croyais encore que je m'en tirerais. Et l'alcool et la paresse et la chance parfois m'empêchaient de voir la réalité que ces pourceaux m'ont obligé à voir. J'étais comme l'un d'eux, aussi sale, aussi dégoûtant qu'eux. Et j'ai eu mal. Et ce temps où j'étais au bord de la mort, hésitant à en finir, et cette toute petite voix qui me disait « Va vers ton père, lui au moins te fera une petite place, tu souffriras moins qu'ici. » Sans cette petite voix, je me tuais, il est sûr que je me tuais. Mais je suis venu sur cette route, marchant avec espoir et peur, dans la honte, craignant quand même le rejet. Et quand j'ai vu mon père descendre la colline en courant vers moi, et quand il m'a pris dans ses bras, j'ai fondu en larmes et balbutié je ne sais quoi. Il m'a serré plus fort en répétant simplement « Mon fils, mon fils ». Et après ce bain et ce parfum et cette robe, si longtemps que je n'ai été propre, que je ne me sens aussi bien. Et père veut faire une fête pour mon retour. Et déjà j'entends les musiciens qui chauffent leurs instruments et les odeurs de cuisine qui arrivent jusqu'ici. Seigneur, est-il possible d'être ainsi pardonné? Moi qui ai tout raté, moi qui ai hélas tout connu, est-il possible d'être ainsi aimé? C'est les larmes de joie de mon père et de ma mère, leur pardon et cet accueil. Mais je mourrais de plaisir si j'étais plus heureux. Scène 2. Un scandale. Un scandale. Sur la colline surplombant la maison, un homme marche agité. Ce misérable, mon frère, revient. sans argent, ayant tout dépensé comme je savais qu'il le ferait. Il revient pour nous parasiter, et mon père court vers lui, et l'embrasse, et l'accueille. Mon fils, je t'en ficherai des fils comme ça. Est-ce que ce n'est pas moi, son vrai fils ? Mais quelle injustice ! Et il fait la fête pour se débaucher, c'est ingrat. Je ne trouve même pas de mots pour le qualifier. Et moi, est-ce qu'on l'en fait une fête pour moi ? Moi qui travaille du matin au soir comme une brute, qui ne prend aucun repos véritable, moi qui ne profite même pas de ma femme et de mes enfants, belle récompense pour ma fidélité, pour mon travail, pour mon honnêteté. Est-ce que moi je ne mérite pas que l'on me donne quelque chose ? Je refuse de m'asseoir à ces réjouissances. Je n'irai pas à ce festin. Je ne m'assoirai pas avec cet homme, je ne sais même pas s'il n'est pas infecté. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait attrapé le sida. Je n'irai pas. Scène 3, mon Dieu, quel bonheur. Très tard dans la nuit, assis sur un banc dans le jardin, un homme âgé contemple les étoiles. Il n'y a pas de bruit, quelques craquements de branches et le vent qui fait frissonner les feuilles des arbres. Mon père, mon Dieu, quel bonheur. Quand je l'ai vu sur cette route, je n'en croyais pas mes yeux. Tant de fois j'avais cru le voir, tant de fois je m'étais trompé, tant de fois espéré cet instant, tant de fois prié qu'il revienne. Et il était si misérable. Si sale, l'air affamé, fatigué. Oh, c'est vrai qu'il a perdu cet éclat qu'il avait. Il n'est plus l'insouciant sûr de lui et de la vie. La vie, je le savais, l'a brisé, humilié. Mais qu'il soit revenu, et il reviendra vers la vie. Il connaîtra la vraie vie. Tout est possible encore, tout est rendu, puisqu'il est revenu. Bien sûr, son aîné a mal compris mon accueil. Il s'est fâché, et j'ai dû aller vers lui pour le ramener aussi. Il se croit toujours mal aimé, délaissé, mal apprécié. Dieu sait pourtant que je l'aime comme son jeune frère. Heureusement, il a quand même accepté de venir, de rentrer et même d'embrasser son frère. Il n'était pas très chaleureux au début, mais il semblait apaisé au cours de la soirée. Mais il faudra que je lui parle, que je parvienne à lui faire entendre qu'il a aussi des choses à abandonner, qu'il doit aussi aller vers une vie libérée, libérée pour lui des règles, des règlements, des obligations, des devoirs oppressants. Que je suis heureux que déjà l'un de mes fils soit revenu, comme je ressens ces sentiments que ce vieux psaume exprimait déjà, psaume 126, dont je me souviens des paroles. À Sion, quand le Seigneur changea notre sort, nous pensions rêver, nous ne cessions de rire et de lancer des cris de joie. Oui, je ne cesse de rire et de lancer des cris de joie. Acte 4, comprendre enfin. Une chambre éclairée par le jour naissant. Un homme est à genoux. Il a le visage mouillé de larmes, mais il ne pleure plus. Ainsi, pendant toutes ces années, je n'ai rien compris. J'ai cru que je gagnerais par mes efforts ce qui m'était déjà donné, mais que je ne voyais pas. J'étais tellement en colère toutes ces années. En fait, je jalousais mon frère, non seulement de la liberté qu'il vivait, mais de ce que je croyais, que mon père l'aimait plus que moi. Et en colère parce que je ne trouvais pas dans ma vie, dans mon travail, ce que j'attendais. J'étais toujours déçu, toujours fatigué, toujours malheureux, toujours à espérer, gagner par mon mérite, par mes œuvres, la reconnaissance de mes droits. De quels droits ? Et cela m'a tellement touché hier quand mon père a dit ces mots. « Mais toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. » Sans doute l'avait-il déjà dit, souvent peut-être, mais je n'avais pas su l'entendre et cela ne m'avait pas parlé, pas convaincu jusque-là. Mais hier, oui, cela a fait son chemin, lentement. J'ai d'abord été rendu capable de rentrer à la maison, accueillir mon frère et participer à la fête. Mais j'étais seulement partiellement présent. Je pensais à ces mots de mon père. Et quand je suis rentré dans ma chambre, alors là j'ai craqué. J'ai pleuré ces années perdues, ces années sans m'être ouvert, sans avoir compris l'amour que mon père me portait. Et j'ai pleuré en pensant qu'en moi, en moi-même, je n'étais pas meilleur que mon frère, que mon cœur avait été sec, que mes actions, mon travail n'avaient pas été accomplis dans et par l'amour, que je ne valais pas mieux que le pécheur, mon frère. Il a osé faire ce que je n'ai pas osé vivre, mais en moi, il m'a fallu le reconnaître, j'ai vécu aussi loin de mon père que lui. Que Dieu m'aide à vivre enfin cet amour, à vivre cette relation incroyable. Tout est à moi de ce qui est à lui. Il est vraiment celui qui m'aime. Tu es toujours avec moi, a-t-il dit. Saurais-je maintenant montrer à ma femme, à mes enfants, à mon frère même, que je les aime gratuitement, parce que moi-même, je suis aimé gratuitement de mon Père et de mon Dieu. Moi aussi, comme mon frère, j'étais mort et je suis vivant. Quelle histoire. Acte 5, une parabole pour ce jour. L'action ne se passe plus au temps biblique dans la Palestine ancienne, mais aujourd'hui. Et vous pouvez vous imaginer dans cette salle, ou dans votre voiture, ou dans une cuisine, ou dans la rue, ou dans le métro. C'est vrai, pense un premier, j'ai bien été comme ce fils prodigue. J'ai quitté longtemps la maison du Père. Moi aussi j'ai voyagé vers des pays lointains, vers des pays païens. J'ai voyagé, j'ai osé, j'ai erré, je me suis amusé, j'ai commis des péchés. Oh, je ne voulais pas les appeler ainsi, ça me semblait vraiment démodé. J'ai fait souffrir et j'ai souffert. Je voulais vivre ma vie, je voulais vivre selon mes désirs, je ne me souciais d'obéir à une quelconque loi, sinon la mienne en fait. Et j'ai découvert douloureusement l'inanité de toute chose. Vanité des vanités, disait déjà ce vieux texte. Oui, cela a été aussi mon expérience. Qu'est-ce que l'argent, le travail, les aventures sentimentales, les vacances quand on se sent vide et seul et sale et perdu? Pourrais-je aussi revenir vers le Père, vers Dieu? Est-il possible de trouver la vie, la vraie vie, le pardon? Est-il possible que ce que dit cette scène partagée par les chrétiens puisse me concerner? Que ce soit aussi pour moi que Jésus, le Fils, celui qui a quitté aussi la maison du Père, mais qui a fait toute la volonté de ce Père et qui n'a lui pas péché. Est-il possible que cela puisse me concerner, moi? Que j'aimerais aussi que le Père, que le Fils me prennent dans leurs bras et sèchent ces larmes que je ne sais plus verser, mais qui sont en moi, prêtes à rompre leurs digues. Que faut-il pour connaître cela? Est-il vrai qu'il me suffise de venir, de revenir, d'accepter la grâce, le pardon en Jésus-Christ, mort et ressuscité? Quel Père est-ce que je suis? Pense cet autre. À l'aune de ce Père de la parabole et à l'aune du Père céleste, quel Père ai-je été? Il me semble avoir souvent eu tout faux. J'ai été faible quand j'aurais dû dire avec force les vérités essentielles, et bêtement fort pour imposer des choses accessoires, fruits de mes lubies ou de mon mauvais caractère. J'ai trop refusé à mes enfants la saine liberté et l'autonomie normale qu'ils souhaitaient prendre. J'ai été guidé là par mon égoïsme, ou au mieux par mes craintes mal contrôlées. Et lorsque j'aurais dû les encourager, les guider, leur montrer l'exemple, j'ai trop souvent été inconsistant, incapable de tenir l'essentiel. Quel exemple, par contre, donne ce père des deux fils de la parabole? Il est amour, il montre le bon chemin, il laisse la liberté, il accueille celui qui revient repentant. Combien j'ai moi-même besoin de ce père qui apaise mes tourments, qui me relève dans mes chutes, qui m'encourage et me pardonne. Enfin, pense ce troisième, j'ai trop souvent été comme ce fils aîné, incapable d'aimer mon frère, incapable d'aimer vraiment mon Dieu. J'ai pensé qu'il me suffisait d'être fidèle dans mes actions et que cela me gagnerait l'approbation de Dieu, que je mériterais quelque chose pour cela. J'ai été engagé dans l'Église, j'ai parfois jugé ceux qui l'étaient moins que moi, j'ai suivi des règles, j'ai été strict avec moi-même, mais sans amour, sans véritable amour, je n'ai pas compris ou j'ai oublié que tout est grâce, que tout est donné par Dieu. Oh, cette phrase, tu es toujours avec moi, tout ce que j'ai est à toi. Elle me touche. Je ne l'ai pas comprise avant ou je l'ai oubliée, mais tout m'est donné en Dieu, mon Père, par Jésus, mon frère. Moi aussi, je suis comme le Fils qui revient vers l'amour du Père. Mais oui, pense celui que la Bible dit être le premier et le dernier. C'est vrai, moi j'ai quitté la maison du Père pour venir vers un pays lointain, pour vous chercher, pour vous ramener vers lui, mon Père et votre Père, mes amis, mes frères. Revenez, venez, venez vers lui, venez vers moi, et vous vivrez de la vraie vie qui seulement est en lui, est en moi. Je vous attends, chacun de vous. Que vous soyez comme ce fils prodigue ayant fui loin de moi, perdu dans vos égarements, sans espoir véritable, ou que vous soyez comme ce fils aîné, cherchant dans une obéissance à la loi une justification impossible, ou que vous soyez comme ce père bien imparfait aussi, conscient de son insuffisance. Oui, j'attends chacun de vous. Aujourd'hui, c'est encore un jour de ma grâce. N'endurcissez pas vos cœurs, mais ouvrez-les, ouvrez-moi. Je frappe à la porte de vos cœurs, ouvrez-moi, qu'ensemble nous nous réjouissions dans une paix et une joie que seul je peux vous donner. Nous lirons cette parabole dans l'évangile de Luc, c'est à la page 1171 dans les Bibles bleues. Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part qui me revient. » Alors le père partagea ses biens entre ses deux fils. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et dissipa ainsi sa fortune. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans les champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit, « Tous les ouvriers de mon père ont plus de nourriture qu'ils n'en peuvent manger, tandis que moi ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il partit pour retourner chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Le fils lui dit alors, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui. Passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Faisons un joyeux repas. » Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et une joyeuse fête commença. Pendant ce temps, le fils aîné de cet homme était au champ. Lorsqu'il revint et fut près de la maison, il entendit un bruit de musique et de danse. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que cela signifiait. Le serviteur lui répondit, « Ton frère est revenu et ton père a fait le veau que nous avons engraissé parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Le fils aîné se mit alors en colère et refusa d'entrer dans la maison. Son père sortit pour l'inviter à entrer. « Écoute. » Mais le fils répondit à son père, « Écoute, il y a de nombreuses années que je te sers et je n'ai jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse un joyeux repas avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà revient, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui tu fais tuer le veau que nous avons engraissé. » Le père lui dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que je possède est aussi à toi. Mais nous devions faire une joyeuse fête et être heureux, car ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Sommes-nous revenus à notre Dieu, vers Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.